La tempête n'avait été que terrible, elle devint horrible. La convulsion de la mer gagna le ciel. En bas, c'était la démence. En haut, c'était la colère. Victor Hugo, Les travailleurs de la mer. Ans d'histoire. Une légende de la mer raconte qu'il y a très longtemps, les vents n'existaient pas et les bateaux avançaient à la rame. Jusqu'à ce qu'un marin plus pressé que les autres vende son âme au diable, qui en échange lui donna des vents pour aller plus vite. Depuis ce jour, il balaye toutes les mers du monde. La Méditerranée, où Ulysse faillit en mourir pendant son odyssée, dans l'Atlantique, où pendant son dernier voyage, Christophe Colomb paya d'une tempête sa découverte du Nouveau Monde, ou au sud du redoutable Cap Horn et du Cap de Bonne-Espérance, qui s'appelait naguère le Cap des Tempêtes, là où il n'y a plus aucune terre pour arrêter des vagues monstrueuses et des tempêtes qui font le tour du monde. Qu'il s'agisse de simples dépressions ou de cyclones, qu'on les appelle des typhons ou des ouragans, quand plusieurs tempêtes se réunissent, elles peuvent même devenir de véritables monstres, comme celle qui a frappé le nord-est de l'Atlantique en 1991.
Regarde ça. On a l'ouragan Grace ici, qui remonte le littoral atlantique, colossal, et qui grossit encore. Deux, cette perturbation au sud de l'île de sable chargée à exploser. Trois, un nouveau front froid nous tombe dessus depuis le Canada. Mais il s'est fait pousser en avant par le jet stream, l'animal. Il fonce tête baissée vers l'Atlantique. Si l'ouragan arrivait directement sur lui, situation aggravée par la dépression de l'île de sable assoiffée d'énergie vitale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vampirise le front froid canadien et l'ouragan Grace. Tu peux faire la météo toute ta vie, jamais tu ne verras une pareille situation. Ce serait un cataclysme tout droit sorti de la Bible. Ce serait la tempête.
Christian Clerc, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait du film En pleine tempête, inspiré d'une véritable tempête qui s'est produite en 1991 dans l'Atlantique Nord, une de ces colères de la mer qui nous terrorise et nous fascine en même temps et dont vous parlez dans un beau livre, Tempête en mer, qui vient de sortir aux éditions Glénat Chasse-Marée. Qu'est-ce qui provoque une tempête et à partir de quand peut-on parler de tempête?
La tempête, c'est une perturbation atmosphérique qui, si elle nous paraît violente, en fait, est totalement naturelle parce qu'il faut bien quand même remettre les choses en place et dire que tout cela a lieu parce que la Terre bouge, parce que nous sommes sur une planète en perpétuel mouvement. La Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil et il y a comme ça des variations. Elle ne montre pas donc sa face toujours du même côté sur le Soleil, donc elle est plus ou moins réchauffée par le Soleil et elle a aussi en surface, plus d'eau que de terre. Et il y a aussi les courants marins, des courants froids, des courants chauds. Donc ces courants et ces airs chauds, froids, font qu'on est en perpétuelle instabilité et qu'à cause de cela, il y a des tempêtes partout dans le monde, tout le temps. Et à ce moment, actuellement, tout de suite, il y a une tempête quelque part dans le monde.
Alors justement, à partir de quand peut-on parler de tempête?
Alors, si on se fixe sur l'échelle de Beaufort, c'est le force 10.
Il faut rappeler que c'est une échelle qui a été imaginée par un Britannique qui s'appelait Beaufort, justement, Francis Beaufort, et qui va de 1 à 12.
Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Francis Beaufort a créé cette échelle en 1806 et qu'on parle toujours de l'échelle de Beaufort. Et en fait, lui avait établi cette échelle de 0 à 12 en fonction des manœuvres des voiles. Et en fait, on ne fait plus de manœuvres à voile. Et malgré tout, on a gardé ce Beaufort. Alors, Beaufort, force 10, c'est la tempête, ça correspond également à des vents, disons jusqu'à 100 km/h, pour parler en km/h.
Mmh. À partir de même de 90, je crois que c'est la force 10, c'est ça.
C'est de 89 à 102, quoi. Donc ouais. ça correspond à 48-55 nœuds. Effectivement, nous, pauvres homo sapiens sapiens, en pleine tempête, on est quand même un peu désarmés.
Ouais. Donc à partir de 90-100 km/h, et ça peut aller bien au-delà, et l'échelle de Beaufort indique également l'état de la mer, c'est-à-dire des vagues, il y a toute une série de descriptions, mer forte à très forte, grosse à très grosse, et puis alors quelque chose qu'on n'entend quasiment jamais et qui est au sommet de l'échelle de Beaufort à force 12, c'est la mer énorme. Alors l'échelle de Beaufort n'existait pas quand se sont produites les premières tempêtes de l'histoire. Vous mentionnez le déluge, Christian Clair.
Oui, parce qu'en fait, l'homme a réussi à tout maîtriser. Il a été quand même l'animal le plus fort, puisqu'il a dominé tous les animaux, il a dominé le fer, il a dominé le feu, et finalement, l'eau, il ne sait pas le dominer. En fait, depuis très peu de temps, il arrive à marcher sur l'eau. Il arrive à traverser et aller de l'autre côté de l'horizon. Mais pendant très longtemps, c'était impossible et il ne pouvait que subir la mer. Donc, quand on subit et quand on ne maîtrise pas, on pense que c'est de la faute, aux autres et surtout aux dieux. Donc, c'est vrai que dans toutes les mythologies du monde entier, toutes les civilisations parlent du déluge. Parce qu'en fait, c'est la grande peur. La grande peur de l'homme, c'est de se faire happer par les flots. Parce que c'est la colère des dieux. On est happé par les flots, tout simplement parce qu'on n'a pas été bon avec les dieux. Donc, du coup, les dieux, d'un revers de mer, nous expulsent de cette terre.
Et la colère, donc, des dieux qui, un jour, lorsqu'il est revenu de la ville de Troie, qu'il avait prise grâce à son cheval, eh bien, Ulysse est rentré vers chez lui, à Ithaque, avec ses compagnons. Et les dieux, pour venger la ville de Troie, ont déchaîné contre eux une tempête.
Soyez maudits, ô Grecs profanateurs, soit trois fois maudit Ulysse, que la colère de Neptune s'abatte sur ta terre.
Relevez les rames, vite, relevez les rames. Qu'allez-vous faire avec ce feu?
Nous devons offrir un sacrifice à Neptune.
Allégez le navire.
Neptune, allons, attention, Ulysse.
Aide-moi, tout à la mer.
Quand on évoque l'Odyssée, Christian Clair, on parle souvent de Circé, du Cyclope. On oublie qu'il a traversé, qu'il a essuyé, que ses compagnons et lui ont essuyé des quantités de tempêtes pendant, je crois, les 7 ans qu'a duré l'Odyssée.
Ah oui, c'est vraiment un très grand marin, avant tout Ulysse. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'aspect dramatique de cette histoire, effectivement, il fallait faire comme ça pour que Ulysse puisse rencontrer et puis subir toutes ces colères des dieux. Il n'y avait que la tempête, il n'y avait que la mer qui pouvait l'expulser au pays des Cyclopes, par exemple, qui pouvait le mettre avec la nymphe Calypso, dans les bras de la nymphe Calypso. Il n'y a que la mer qui permettait ça, et finalement, que la tempête. Et c'est vrai qu'il avait quand même affaire à un dieu quand même très rancunier, Poséidon.
Il n'y avait que les dieux pour expliquer, évidemment, il n'y avait pas de météo marine, il n'y avait que les dieux pour expliquer les tempêtes. À l'époque, on devait être absolument terrorisé par ces phénomènes naturels qui sont à l'origine de beaucoup de légendes. Vous rappelez par exemple celle du Hollandais volant.
Oui, le Hollandais volant, parce que c'est un bateau fantôme. C'est le bateau fantôme qui vogue à travers toutes les mers. Et évidemment, on ne peut pas savoir s'il existe vraiment, parce que quand on le rencontre, c'est terminé. On est mort, quoi. On périt en mer et on est la propriété du diable. Donc c'est vrai que... Mais c'est ça qui est fabuleux dans la mer, c'est qu'en fin de compte, on est attiré et ça nous... Et en même temps, ça nous plaît, ça nous séduit. C'est vraiment plein de fantasmes. Et quand on n'explique pas, eh bien, alors on se réfère à plein de légendes comme ça.
Le Hollandais volant dont le capitaine qui s'appelait Van der Decken avait voulu passer le cap de Bonne-Espérance contre le gré de ses marins qui avaient essuyé une tempête et donc qui avait été puni. Tous ses marins étaient partis et lui avait été condamné à errer comme ça sur la mer parce qu'il avait voulu passer ce cap de Bonne-Espérance qu'on appelait le cap des tempêtes, justement, Christian Clair, quand il a été découvert.
Le premier à passer le cap, c'est Bartolomeo Diaz. Et c'est vrai que c'était épouvantable. D'ailleurs, il n'a pas su qu'il avait passé... ce fameux cap, il est parti plus à l'est et puis finalement comme c'était tellement difficile qu'ils sont revenus à l'ouest et finalement il a vu ce cap et il l'a appelé cap des tempêtes et donc il est revenu au Portugal pour dire que bon, c'est vrai qu'au sud de l'Afrique il y avait éventuellement peut-être un passage qui conduirait peut-être vers l'Orient et c'est le roi du Portugal qui l'a pas trouvé très très beau qu'on appelle un cap des tempêtes en se disant si jamais il y a une route vers les épices, c'est pas très commercial. Et donc, du coup, il l'a, lui, appelé Cap de Bonne-Espérance. Mais lui, il n'avait jamais été au Cap des Tempêtes.
Alors, autre cap mythique, bien sûr, le Cap Horn, hein, que doublait un jour James Cook en 1768 pour aller d'Angleterre en Australie.
Le baromètre est en baisse.
Il va sûrement neiger. Cap sud-sud-ouest, monsieur X.
Oui, commandant.
Sud-sud-ouest, timonier.
Sud-ouest, lieutenant.
Sommes-nous au sud du cap ?
58 degrés de latitude. Personne ne s'est jamais aventuré plus au sud.
Ah, la base du monde, commandant.
Je vais écrire dans mon journal. Nous avons franchi le cap Horn dans d'excellentes conditions.
Réduisez la voilure, monsieur Gore !
En haut, les gabiers !
Si tu te noies pas, mon gars, tu diras à tes enfants que tu as franchi le cap Horn.
Oh, in South Australia, when I was born.
Leave away, all the way.
In South Australia, round Cape Horn.
Where we're bound to South Australia. All the way, you're rolling king. Leave away, all the way. All the way, you'll hear me sing. Where we're bound to South Australia.
South Australia, c'est une chanson de capornier, peut-être à l'époque de Cook, qui a passé le Cap Horn en plus dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui fait la très mauvaise réputation du Cap Horn, Christian Clerc, qui est redouté par tous les marins du monde?
En fait, c'est tout simplement parce que sous le Cap Horn, au 50e hurlant, plus aucune terre n'arrête les courants dominants. Et les courants partent d'ouest en est. Donc effectivement, elles font un tour complet, un tour comme ça continue. Donc quand on arrive, quand on se présente contre courant, effectivement, on a des grosses difficultés pour passer.
Vous citez un marin qui a mis 3 mois à franchir le Cap Horn.
Hanson, oui, oui. Alors après, ouais, ça a été la terreur pour tout le monde. Trois mois pour passer ce fameux cap.
Et puis surtout parce que vous dites qu'il n'y a plus rien, mais ça suppose au fond que les vagues, que le vent dominant qui vient du Pacifique, que les courants vont tous dans le même sens. Donc autrement dit, ça fait des vagues monstrueuses parce que rien ne les arrête pendant tout un tour du monde. C'est la route actuellement qu'emprunte d'ailleurs le Vendée Globe.
Et c'est pour ça qu'ils ne descendent pas aussi bas. Ils descendent, ils frôlent les 50e, mais bon, quand même, ils restent dans les 40e rugissants, comme on les appelle, ce qui est déjà pas mal, parce que effectivement, après, ça devient trop dangereux.
Bon, faut bien aussi... Il y a l'Antarctique, il y a les glaces.
Voilà, ouais, voilà. Il faut bien aussi se souvenir qu'on est dans l'hémisphère sud, et qu'en ce moment, c'est l'été. Donc c'est la meilleure période. Après, c'est même plus possible.
Alors, il y a quand même... Le Cap Horn est dangereux. La mer, de façon générale, est dangereuse sur la côte, pas tellement au large. Et d'où la présence de phares qui sont peut-être les premiers témoins des tempêtes, Christian Clerc, vous le rappelez.
Oui,
c'est de là qu'on voit le mieux, qu'on mesure le mieux la violence des tempêtes.
Effectivement, surtout les phares en pleine mer. En France, on en a quand même quelques-uns et de célèbres. À l'ouest de la Bretagne, du côté de Ouessant, de l'île de Sein. Je pense notamment au phare de la Jument et au phare de la Vieille. Et c'est vrai que quand on était gardien de phare, parce que maintenant, depuis 2004, c'est terminé, tout est automatisé. Mais jusqu'en 2004, il y avait des gardiens de phare et des gardiens de phare en mer. Et par exemple, en 1925, les gardiens de la Vieille ont été bloqués à cause de la tempête en décembre pendant 77 jours. 77 jours et on n'a pas pu venir non seulement les récupérer, mais en même temps leur donner du ravitaillement. Et c'est vrai que c'est à devenir fou. La Vieille encore, 4 ans plus tard, pendant 45 jours, les marins ont encore été bloqués. Mais je pense que là encore, c'est un poste merveilleux quand on aime la mer. On est à la fois protégé, c'est un peu comme la condition humaine. On est à la fois protégé et à la fois en danger face à cette mer.
Alors le phare, vous en citez de célèbres, parce qu'il y en a même un qui a totalement disparu en mer, comme un bateau. C'est un très vieux phare, il a été construit au début, je crois, du 18e siècle. Et il a été littéralement, il a disparu, emporté par la mer, c'était le phare d'Eddystone en 1703.
Oui, parce que c'est quand même assez un phénomène assez nouveau de construire des phares, enfin nouveau sur l'échelle de la planète.
Le premier, c'est quand même le phare d'Alexandrie.
Oui. Mais après, au 19e, on s'est mis quand même à faire de plus en plus de phares. Et c'est vrai que bon, il y a aussi des farfelus. Ouais. Hein, dans phare, il y a farfelu peut-être, ou dans farfelu, il y a phare. Et effectivement, y en a qui ont fait des phares de brick and broke en disant mais mon phare sera assez solide, et finalement la première tempête il a disparu. Ouais.
Les phares qui servent surtout évidemment à annoncer que la côte est proche à un bateau, d'où également d'autres personnes qui profitent, enfin bon on peut pas dire qu'un gardien de phare profite des tempêtes, il protège les gens des tempêtes, mais eux qui en profitent, qui fabriquent même de faux phares ou des lumières qu'on appelle les naufrageurs, profitant justement des tempêtes pour piller les bateaux qui font naufrage.
Voilà, il y a une différence entre les naufrageurs et les pilleurs. On peut considérer que ceux qui pillent, quand des bateaux s'échouent, faut bien penser aussi qu'il y a beaucoup de gens qui étaient pauvres sur les côtes pendant très très longtemps, et vraiment pauvres. Donc c'est, en fin de compte, c'était une aubaine. Un bateau qui s'échoue, ce sont des vivres, c'est du bois, c'est de la corde, on peut récupérer plein de choses pour vivre au quotidien. Les naufrageurs, c'est autre chose. Les naufrageurs, ce sont vraiment véritablement des meurtriers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui allument des feux, donc du coup, qui conduisent les bateaux sur la côte pour ensuite les dévaliser.
Et qui profitent donc de ces tempêtes dont les vents peuvent dépasser parfois les 200 km/h, avec le degré d'ailleurs le plus élevé de l'échelle de Beaufort, une mer énorme, c'est un mot qu'emploie très rarement la météo marine de Marie-Pierre Planchon, que l'on peut entendre quotidiennement sur France Inter Grandes Ondes. Attention, celle-ci n'est pas la météo d'aujourd'hui, que les marins qui nous écoutent se rassurent.
Bonsoir à toutes et à tous. Pour les zones de l'Atlantique et de la mer du Nord, pour toutes les zones de la mer du Nord, excepté Tamise, grand frais à tempête en cours prévu. La situation générale et l'évolution. Une nouvelle dépression se déplaçant rapidement sur l'Atlantique en se creusant est prévue à 971 hectopascales au nord immédiat des Shetland demain soir à minuit. Les prévisions par zone pour ces prochaines 24 heures. Pour Forties, Cromarty, Forth, Tyne, Dogger, vent de secteur ouest force 11 l'après-midi, de fortes rafales, mer très grosse à énorme, croisée par houle d'ouest, des grains orageux, de la pluie demain. Pour les zones méditerranéennes, pour est de Cabrera, Minorque, Lyon, Provence.
Bonjour, il faudra encore être très prudent en ce début de semaine. Les météorologues annoncent des coups de vent. Le phare de la jument à Ouessant a été traversé par une lame qui a brisé les vitres à une quarantaine de mètres de hauteur. C'est bien simple, Théodore Malgor n'en est le gardien depuis 13 ans et il n'avait jamais vu cela.
Le phare ici n'a pas arrêté de trembler toute la nuit là, avec les paquets de mer. Voilà, ça montait jusqu'à la lanterne. Pourtant j'ai vu des tempêtes, mais pas si fort que ça.
Et le phare de la jument, il faut le savoir, au large d'Ouessant, vous en avez parlé tout à l'heure, Christian Clerc, il a 47 mètres de haut. C'est absolument prodigieux, ces tempêtes que peuvent connaître nos côtes.
Mais je pense qu'on a raison d'avoir peur de la mer et du déluge, parce que c'est vrai que quand elle se met en colère, c'est absolument monstrueux et on ne peut rien faire. Autant on peut essayer de combattre le feu, autant l'eau, il n'y a rien à faire. Donc c'est vrai, quand on voit les images du tsunami, c'est absolument terrifiant quand la vague comme ça arrive sur la mer, sur la terre, pardon, et prend de la force. C'est surtout ça, c'est qu'au fur et à mesure que ça avance, ça prend de la force. Donc du coup, on a vraiment raison d'être terrifié.
Alors la météo marine et le reportage qui a suivi, donc je répète, la météo marine de Marie-Pierre Planchon a été faite pour nous. Hein. Très rarement, Marie-Pierre Planchon me l'avait dit, on ne prononce pratiquement jamais le mot mer énorme, c'est-à-dire le degré maximum de l'échelle de Beaufort. Mais cette tempête qui a suivi et dont on a entendu un reportage, c'était en 89, une des plus fortes tempêtes dans une région qui en connaît beaucoup. La tempête du siècle, c'est quoi? On a évidemment tendance à penser à celle qui avait ravagé l'intérieur de la France, je crois que c'était en 99, mais qui n'a pas fait de mort, mais en mer.
En fait, des tempêtes du siècle, il y en a, j'allais dire, presque au moins toutes les décennies et presque tous les ans quand même, parce que c'est vrai que c'est effectivement pas un phénomène rare, et au contraire. Et en 99, c'est vrai que pendant deux jours, la tempête a ravagé l'Europe. Heureusement, comme l'homme est aussi intelligent, c'est vrai qu'on arrive maintenant à savoir un petit peu quel temps il va le faire plus tard, quel temps il va faire demain ou dans les heures qui arrivent. Donc du coup, les marins n'étaient pas sortis en mer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mort en mer durant cette tempête du siècle, comme on l'a appelé en 99. En revanche, c'est vrai qu'avant, on était beaucoup moins chanceux. Et si on se réfère à des tempêtes qui ont fait beaucoup de péris en mer. Il faut aussi parler d'une tempête du siècle en 1930, en septembre 1930, où pendant deux jours, il y a effectivement eu une tempête en Atlantique du Nord. Et les marins étaient en mer et il y a eu 207 marins français morts. Rien que des Français. Et rien que pour le petit port de Etel, 70 marins ont disparu. Je pense que là, on voit un petit peu et on relativise notre société moderne et la chance que l'on a maintenant par rapport à il y a quelques années.
Vous évoquez aussi, photo à l'appui, une tempête qui a littéralement décimé une grande course au large qui n'avait jamais connu de mort jusqu'en 79, date à laquelle, je crois, 19 marins, là c'est de la plaisance, c'était une course en mer, mais ont été tués.
Oui, durant le Fastnet 79, ouais. Voilà. C'est vrai que c'est une course qui a lieu depuis 1925, tous les deux ans. Il n'y avait eu jamais de problème, jamais eu de problème. C'est une course qui, à la fois, permet aux amateurs de se confronter aux professionnels avec des bateaux plus ou moins grands, plus ou moins forts. Et là, tout d'un coup, au mois d'août, parce que bon, c'est vrai que c'est pendant l'été, au mois d'août, en Manche, on n'imagine absolument pas une dépression aussi soudaine. Et effectivement, elle a eu lieu.
Faut rappeler que c'est entre le sud de l'Angleterre, Plymouth, l'île de Causse, et voilà. En direction de l'Irlande, et retour vers Causse.
Voilà, c'est vrai que la mer d'Irlande est une mer dangereuse, mais au mois d'août, tout de même, on peut supposer que ce n'est pas le cas. Mais je pense que la mer se réveille n'importe quand. Et effectivement, c'est pas parce qu'on est en plein été qu'on est à l'abri. Et c'est pas parce qu'on est en Méditerranée, par exemple, qu'on est à l'abri.
Mais il n'y a pas que les bateaux de plaisance, évidemment. Hein, on pense souhaiter leur bonne chance, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne l'aient pas, parce que le Vendée Globe a aussi été meurtrier dans le passé. Il y a aussi, bien entendu, des tempêtes qui provoquent des dégâts considérables, d'autant plus quand il s'agit, par exemple, de pétroliers. Je pense évidemment à l'Erika en 99, justement.
Absolument. C'était justement pendant ce mois de décembre 99. On passait à un autre millénaire d'une manière un peu dramatique. Et effectivement, malheureusement, il y aura toujours des naufrages parce que la mer est plus forte que notre technologie. Mais comme on est un peu, on a l'impression d'être les maîtres du monde, il suffirait simplement de mettre trois coques à un bateau pour qu'il n'y ait pas de marée noire. Donc c'est simplement une question d'économie et malheureusement, dramatiquement, on ne le fait pas.
Et des gens aussi pour l'empêcher. Il y a des gens qui travaillent pour justement sauver, pas forcément d'ailleurs seulement des marins, mais pour empêcher ce qui s'est passé avec l'Erika. Vous citez par exemple les marins très courageux de l'abeille flanc, enfin des abeilles de ces bateaux qui, à partir de Cherbourg, sont chargés de surveiller le rail d'Ouessant pour essayer d'empêcher des bateaux de faire naufrage, et notamment quand c'est des pétroliers. Il y a aussi ces gens du secours en mer, la SNSM, la Société Nationale des Sauvetages en Mer, qui sont précieux. Et parce que le secours est quelque chose de traditionnel chez les marins. Ils se portent au secours. On l'a vu d'ailleurs récemment dans le Vendée Globe.
Oui, c'est une tradition. Et c'est vrai que c'est paradoxal, les sauveteurs en mer et les héros, on peut les appeler comme ça, même s'ils n'aiment pas des abeilles. Eux, ils aiment la mer quand elle est en furie. Et c'est vrai que, mais c'est vrai que ce sont quand même des gens extrêmement professionnels et heureusement qu'ils sont là pour justement éviter notre drame.
Et pour venir au secours des plaisanciers ou encore de beaucoup plus gros bateaux comme ces cargos ou porte-conteneurs qui peuvent avoir à affronter sur d'autres mers des vagues, les vagues les plus monstrueuses, ce qu'on appelle les vagues scélérates.
Le naufrage de l'Atlas Pride a eu lieu en pleine tempête. Une énorme vague s'est soudain levée et l'a frappée, détruisant entièrement la proue. Le Mimosa était un très gros bâtiment. Tout le revêtement latéral était littéralement enfoncé. Il y avait un trou dans lequel on aurait pu faire entrer trois bus à deux étages. Quand je suis monté à bord pour procéder au sauvetage, le capitaine, un Norvégien très expérimenté, m'a dit que c'était la plus grosse vague qu'il ait jamais vue. Elle était colossale.
Au moins 25 mètres, peut-être plus. Elle devait faire dans les 30 mètres de haut.
C'était comme une montagne, un mur d'eau qui nous fonçait dessus.
Je n'ai jamais vu de vague aussi haute de toute ma vie.
C'était un mur. Ce n'était pas une vague en pente douce, mais une paroi verticale d'eau dure.
Elle m'a fait penser aux falaises blanches de Douvres. C'était comme une énorme falaise juste devant nous.
Commandant, on va passer là.
Elle ne va pas nous laisser sortir.
Des vagues hautes comme des falaises, hein, c'est ce que la mer peut fabriquer de plus haut, de plus impressionnant, ce qu'on appelle les vagues scélérates. À quoi sont-elles dues? Et où en trouve-t-on?
Avant, on pensait qu'il n'y avait que des vagues scélérates au sud de l'Afrique, du continent africain, entre le Cap de Bonne-Espérance et là, le banc des Aiguilles. Parce qu'il y a l'océan Indien qui arrive d'un côté et qui se confronte à l'océan Atlantique. Donc, on disait, il n'y avait que là, sur les cartes, c'était marqué vague anormale, anormal wave, et simplement ici. Or, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des vagues scélérates partout. Et maintenant, grâce aux satellites, on a remarqué qu'effectivement, il y a des vagues scélérates partout et on ne sait pas encore à quoi c'est dû. Et c'est quand même... On essaye de maîtriser d'avoir une explication à tout, mais à ces vagues scélérates, pour l'instant, on n'a pas d'explication physique, scientifique, précise, et on ne peut pas vous répondre.
Partout. Alors, cela dit, il y a, comme vous les appelez dans votre livre, des coins à tempête. Hein. Quelles sont les régions les plus exposées aux tempêtes dans le monde?
Bon, déjà, sur quelle mer? En dessous le 50e...
Le Cap Horn.
Voilà, on est en perpétuelle tempête, ou presque. Et c'est vrai que l'Atlantique Nord est quand même très dangereux, même en été. Je crois qu'il y a... Il y a peut-être exception de Pacifique Sud, qui est le plus tranquille.
Et puis, alors, dites-moi, il y a des tempêtes dont on n'a pas parlé et qui se trouvent, elles, dans des mers tropicales et qui sont dues à la chaleur de la mer, au-dessus de 26 degrés. Ce sont les cyclones, peut-être les plus impressionnantes des tempêtes.
Oui, voilà, tout autour de l'équateur, comme ça. C'est un phénomène physique établi. L'eau, dès qu'elle dépasse 26 degrés, alors effectivement, ça provoque des tempêtes cycloniques. C'est pour cette raison qu'en fin de compte, ces tempêtes se déclenche après le mois d'août, en fin de compte, août, septembre, octobre, parce que la Terre s'est réchauffée pendant plusieurs mois et elle est prête à dépasser le 26 degrés. Donc voilà, et c'est pour ça qu'en fin de compte, on se dit, si la Terre se réchauffe, la mer également, et si la mer se réchauffe, alors elle dépassera beaucoup plus souvent les 26 degrés fatidiques pour les tempêtes cycloniques.
Parce que ces cyclones, on l'a constaté, ces dernières années, sont de plus en plus nombreux. Autrement dit, c'est d'ailleurs le dernier chapitre de votre livre, les tempêtes ont de l'avenir, Christian Clerc.
Je pense, oui. J'allais dire malheureusement, mais oui, malheureusement, les tempêtes ont de l'avenir si la Terre se réchauffe, effectivement. Et si on ne fait pas plus attention à cette mer, je pense qu'on est près du déluge. On avait peur du déluge avant quand on ne connaissait pas la mer, quand on ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté de l'horizon. Grâce aux caravelles, on a pu comprendre et voir qu'il y avait des continents derrière l'horizon. Mais maintenant, on maîtrise peut-être tout ça, sauf qu'on va effectivement avoir affaire au déluge quand même.
Merci Christian Clerc. C'est un livre très, très beau que nous offrent les éditions Chasse-Marée Glénat, avec des photos très, très impressionnantes justement de ces tempêtes en mer. Vous mentionnez par exemple un marin, un des rares marins à reconnaître qu'il avait peur. C'était Christian de Broc, je crois, dans une course. C'est rare pour un marin.
Oui, mais un bon marin un marin est bon que s'il a peur.
Tempêtes en mer, donc c'est le titre de votre livre, publié aux éditions Glénat. À lire aussi En mer, voyage photographique de Farid Abdelwahab, aux éditions Le Chasse-Marée et Glénat. Vous avez pu entendre des extraits des films En pleine tempête de Wolfgang Petersen, en DVD chez Warner Home Video, Ulysse de Mario Camerini, disponible en DVD aux éditions Fabry, Capitaine James Cook, un téléfilm de Lawrence Gordon Clark, ainsi qu'un extrait de l'émission Thalassa, diffusé sur France 3. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique, Rémi Quincé et Julien Chabassu. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Et puis merci à Marie-Pierre Planchon pour sa météo marine, concoctée exceptionnellement pour 2000 ans d'histoire. C'était une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les débuts du christianisme.